Joyeux Noël à tous. Vous ne saviez pas quoi m'offrir? Moi, je savais. Un épisode sur Wilson Pickett, un épisode d'1h20, quelque chose de très complet et qui annonce ce qui sera peut-être la saison 3, puisqu'on parlera beaucoup de Saul l'année prochaine, si la saison 3 a lieu. En attendant, vous pouvez toujours adhérer au Patreon, patreon.com/undernierdisque. Joyeux Noël!
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un disque enregistré dans les studios de Stax Records, bien qu'il ne soit pas sorti sur ce label. Mais le disque que nous allons étudier est celui d'un artiste qui était un pont entre la Detroit Soul de la Motown et la Southern Soul de Stax. Un artiste qui avait un pied dans les deux camps et dont la musique a contribué à définir la soul tout en étant plus proche de la musique faite par les musiciens de rock blanc de l'époque que de celle des autres musiciens soul. Nous allons nous intéresser à Stax, à Muscle Shoals, à Atlantic Records, à Wilson Pickett et à In the Midnight Hour.
Bienvenue sur nos lignes. Je suis le capitaine Dilligaff et mon copilote, le sergent Pepper, et moi-même avons le plaisir de vous recevoir à bord de cet épisode. Nous vous informons que pendant l'écoute, vous pouvez fumer, boire, et que l'utilisation d'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillée. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon Jovi est-il vraiment bon? Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte? Cat Stevens a-t-il un chat? Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute!
Wilson Pickett n'a jamais vraiment eu de chance. Son père, Wilson Sr., était connu en Alabama pour sa fabrication de whisky clandestin. Ce talent lui a valu des séjours en prison et son jeune fils est la seule personne à qui il a révélé l'emplacement de son alambic. Wilson Sr. a fini par déménager à Detroit pour gagner plus d'argent, laissant d'abord sa famille derrière lui. Wilson Jr. et sa mère déménagent finalement à Detroit, mais il laisse les frères et sœurs plus âgés en Alabama, et sa mère fait la navette entre le Michigan et l'Alabama en essayant vainement de s'occuper de tous ses enfants. Finalement, la mère de Wilson tombe enceinte alors qu'elle se trouve en Alabama, ce qui met fin au mariage de ses parents. Et Wilson retourne définitivement en Alabama pour vivre dans une ferme avec sa mère. Mais il ne s'est jamais entendu avec cette dernière, qui le maltraitait physiquement, comme il le fera plus tard lui-même avec ses propres enfants, ses partenaires et même ses compagnons d'orchestre. La seule chose que Wilson apprécie dans sa vie d'Alabama, c'est le gospel. Et il s'éprend particulièrement de deux chanteurs de gospel, Archie Brownlee, des Five Blind Boys of Mississippi.
Will my Jesus be waiting?
Will my Jesus be waiting?
In that awful
day to come?
Will my Jesus be waiting?
Will my Jesus be waiting?
Just to
say.
Et Julius Cheeks of the Sensational Nightingales.
I wonder why some people never pray. Everything always go that way. But I pray both night and day for Jesus to roll my burdens away. Sometimes.
Wilson est déterminé à devenir lui-même un chanteur de gospel, mais il ne supporte pas de vivre avec sa mère dans l'Alabama rural et décide de déménager pour être avec son père et la nouvelle petite amie de ce dernier à Detroit. Une fois installé à Detroit, il commence à fréquenter la Northwestern High School, qui, à l'époque, était également fréquentée par Norman Whitfield, Florence Ballard et Melvin Franklin. Wilson se lie également d'amitié avec Aretha Franklin, bien qu'elle n'ait pas fréquenté la même école. Elle est allée à l'école Northern avec Smokey Robinson et il commence à assister aux services religieux à New Bethel Church, l'église où son père est en prêche. C'est en partie parce que le révérend Franklin était l'un des prédicateurs les plus dynamiques de l'époque, mais aussi parce que la New Bethel Church accueillait régulièrement les plus grands artistes gospel de l'époque, que Pickett a vu les Soul Stirrers s'y produire, avec Sam Cooke comme chanteur principal. Et bien sûr, il a aussi vu chanter Aretha. Il rejoint quelques groupes de gospel, d'abord au sein d'un groupe appelé les Sons of Zion, mais il est rapidement débauché par un autre groupe qui a plus de succès, les Violiners. C'est avec les Violiners qu'il fait ce qui est presque certainement son premier enregistrement, un titre qui est sorti en tant que single promo, mais qui n'a jamais été diffusé à grande échelle à l'époque, Sign of the Judgment.
I see the sign of a judgment.
Yeah. Oh, yeah.
I see the sign of a judgment.
Hold
on.
Oh, my time.
I know my time ain't long.
Les Violiners n'ont qu'un succès très modéré sur le circuit du gospel. Mais Pickett est déjà sûr d'être destiné à de plus grandes choses. Il avait une rivalité avec David Ruffin en particulier, se moquant constamment de Ruffin et disant qu'il n'arriverait jamais à rien alors que Wilson Pickett était le plus grand. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas dans le gospel qu'il allait faire sa marque. Son changement de direction était en partie motivé par des préoccupations financières. Il avait agressé physiquement son père et avait été mis à la porte de chez lui. Et il s'était également marié alors qu'il était encore adolescent et avait déjà un enfant qui avait besoin d'être nourri. Également, il faut bien le dire, il était conscient d'un certain niveau d'hypocrisie parmi ses connaissances plus religieuses. Aretha Franklin avait déjà deux enfants, alors qu'elle n'avait que 16 ans, et son père, le révérend Franklin, avait eu un enfant avec une fille de 12 ans, oui, vous avez bien entendu, et avait une liaison avec la chanteuse de gospel Clara Ward, et traînait tout le temps dans des clubs de blues. Plus important encore, il s'est rendu compte que le public auquel il chantait à l'église le dimanche matin était la plupart du temps encore ivre du samedi soir. Comme il l'a dit plus tard, ouvrez les guillemets, « Je pourrais aussi bien chanter du rock and roll que chanter pour un public ivre, je pourrais aussi bien faire tout ça pour de l'argent. » Et c'est là qu'interviennent les Falcons. Les Falcons sont un groupe de doo-wop qui a été formé par un chanteur noir, Eddie Floyd, et un chanteur blanc, Bob Manardo. Ils avaient tous deux recruté des amis, dont le chanteur baryton Willie Scofield, et après s'être produits localement, ils avaient décidé de se rendre à Chicago pour auditionner pour Mercury Records. Lorsqu'ils y sont arrivés, ils ont découvert qu'il n'était pas possible d'auditionner pour Mercury à Chicago et qu'il fallait aller à New York. Mais ils ont réussi à persuader le label de les signer quand même, en partie parce qu'un groupe intégré, avec un noir et un blanc, était une chose très inhabituelle. Ils ont enregistré un single pour Mercury, produit par Willie Dixon, qui travaillait au noir pour Chess. Mais Manardo est alors appelé sous les drapeaux et l'autre membre blanc du groupe, Tom Feather, décide de s'engager avec lui. Le groupe a subi d'autres changements de composition et s'est finalement retrouvé avec Eddie Floyd, Willie Scofield, Mac Rice, le guitariste Lance Finney et le chanteur Joe Stubbs, le frère de Levi Stubbs. Le groupe a sorti plusieurs singles sur des petits labels appartenant à leur manager avant de connaître un très grand succès avec You're So Fine. Il s'est classé à la 2e place du hit R&B et à la 17e place du hit parade pop. Ils ont enregistré plusieurs suites, dont Just For Your Love, qui s'est hissé à la 26e place du classement R&B.
I was with the ocean and moon. I'm got a man with a fork and a spoon. Take a rocket ship to the moon just for your love. Just for your love.
Pour vous donner une idée de l'indépendance des différents petits labels R&B à cette époque, ce disque avait été enregistré et publié à l'origine sur Chess Records. Mais comme Rockel Davis travaillait à ce moment-là pour Chess, il a réussi à obtenir les droits pour le rééditer sur Anna Records, le label qu'il possédait en copropriété avec les sœurs Gordy. Et le disque réédité a été distribué par Gone Records, un des labels de John Goldner. Le groupe commence également à faire des tournées en première partie de Marv Johnson. Mais Willie Scofield commençait à être insatisfait. Il avait écrit « You're so fine », mais il n'avait gagné que $500 sur ce qu'on lui avait dit être un million de ventes. Il s'est rendu compte que dans l'industrie de la musique, le véritable argent se trouvait du côté des opérations et non pas de la production de musique. Tout en restant dans les Falcons, il a décidé de se lancer dans le management. Il a trouvé l'artiste qu'il allait gérer alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Il a entendu quelqu'un dans l'un des bâtiments devant lesquels il passait chanter « The Sky is Crying », le vieux tube blues d'Elmore James. Personne qui l'a entendu chanter cette chanson et s'accompagner à la guitare acoustique était bien sûr Wilson Pickett. Et Scofield lui a fait signer un contrat de management. Et Pickett était impatient de signer, sachant que Scofield était lui-même déjà un artiste à succès. Au début, il était prévu que Scofield gère Pickett en tant qu'artiste solo. Mais Joe Stubbs a eu des idées bien au-dessus de ses compétences et a commencé à insister pour que le groupe s'appelle Joe Stubbs and the Falcons, ce qui a mis les autres sur la défensive. Et Stubbs a rapidement quitté le groupe. Il se peut que son frère ait eu cette expérience en tête plus tard. À la fin des années 60, lorsque la Motown a commencé à essayer de promouvoir des groupes dont la structure du nom était « nom du chanteur et le groupe », par exemple Diana Ross and the Supremes, Levi Stubbs, bien que leader du groupe, a toujours refusé que son nom figure devant celui des Four Tops. Les Falcons se retrouvent donc sans chanteur. Ils ont essayé quelques autres chanteurs dans leur entourage, dont Marvin Gaye, mais ils ont tous été refusés. Alors, en désespoir de cause, ils se sont tournés vers Pickett. Ce n'était pas un bon choix. Le groupe, à l'exception de Scofield, pensait que Pickett était trop noir, à la fois parce qu'il avait trop de gospel dans la voix et littéralement parce qu'il avait la peau plus foncée que le reste du groupe. Ce dont Scofield, qui était plus foncé que le reste du groupe, mais moins foncé que Pickett, s'est offusqué. Pickett, quant à lui, pense que les Falcons, de toute façon, sont trop pop et que ce n'est pas vraiment le genre de choses qui l'intéressent. Mais ils sont coincés l'un avec l'autre et doivent en tirer le meilleur parti, même si les premières performances de Pickett sont, de la vie générale, assez épouvantables. Il a apparemment commencé à chanter dans la mauvaise tonalité, au moins à une occasion, et une autre fois, il s'est complètement figé et n'a pas pu chanter. Et même lorsqu'il chantait en accord, il n'avait aucune présence sur scène. Il a déclaré plus tard « Je trébuchais, je tombais sur la scène, et le groupe me faisait répéter dans la loge après chaque spectacle. Je m'énervais parce que je voulais sortir et moi aussi regarder les filles. Et ils ont dit « Non, non, tu dois répéter. » Ils m'ont appelé Oscar. « Tu dois répéter Oscar. » Je ne sais pas pourquoi ils m'appelaient Oscar, mais je sais que je n'aimais pas ça. Rapidement, Joe Stubbs est de retour dans le groupe. Et il est question que le groupe se débarrasse complètement de Pickett. Mais ensuite, ils sont entrés en studio pour enregistrer une chanson de Sam Cooke, « Paul, You're in Love ». La chanson avait été écrite pour que Stubbs la chante, mais à la dernière minute, ils ont décidé de donner le rôle principal à Pickett.
« Paul, what ?»«
I said, Paul !»«
What you mean, Paul ?»«
A pal, big pal, flashing smile, a conversation just a little while. »
Pickett est maintenant sûr d'être le chanteur du groupe, mais le groupe n'a pas de succès avec les disques. En revanche, ils deviennent un groupe phénoménal sur scène, à tel point que lors d'une tournée où James Brown est la tête d'affiche, ce dernier tente de faire retirer le groupe de l'affiche car il estime que Pickett lui vole la vedette. Finalement, le manager du groupe a créé sa propre maison de disques, Lou Pine Records, qui sera surtout connu comme le label qui a sorti le premier disque des Primettes, qui deviendront plus tard les Supremes. Lou Pine a sorti le single des Falcons, I Found the Love, après que le manager du groupe l'ait d'abord proposé à d'autres labels pour essayer de les convaincre de le sortir. Cette chanson est basée sur l'ancien hymne pentecôtiste « Yes, Lord ». Elle a été écrite par Pickett et Scofield, mais le manager du groupe, Robert West, a également réussi à faire figurer son nom au générique. Le backing band, les Ohio Untouchables, sera plus tard mieux connu sous le nom de « The Ohio Players ». L'un des labels qui avait refusé ce disque était Atlantic Records, car Jerry Wexler n'avait pas perçu de potentiel de tube dans cette chanson. Mais le disque a commencé à avoir du succès localement, et Wexler a compris son erreur. Il a fait en sorte que Lou Pine signe un contrat de distribution avec Atlantic, donnant à Atlantic tous les droits sur le disque. Et celui-ci est entré dans le top 10 des hits R&B. Mais à ce moment-là, Pickett en a assez de travailler avec les Falcons, et il décide de se lancer dans une carrière solo. Son premier single solo est sorti sur le petit label Correct Tone, coproduit par Robert Bateman et les Funk Brothers en soutien instrumental et les Primettes au chant. Let me be your boy. Cela n'a rien donné, et Pickett a continué à enregistrer avec les Falcons pendant un certain temps, ainsi qu'à sortir en parallèle des disques solo. Mais Willie Scofield a été appelé sous les drapeaux et le groupe s'est séparé. Leur manager a engagé un autre groupe, les Fabulous Playboys, pour former un nouveau groupe type Falcons, mais en 64, il s'est fait tirer dessus dans un conflit concernant la gestion de Mary Wells et a dû renoncer à travailler dans l'industrie musicale. Le single suivant de Pickett, qu'il a coécrit avec Robert Bateman et Sonny Scofield, sera le disque qui changera sa carrière à jamais. If You Need Me, avec les Funk Brothers et les Andantes, il a été enregistré pour Correct Tone.
Call.
Jerry Wexler a de nouveau l'occasion de sortir le disque sur Atlantic, mais il s'y refuse une fois de plus. Au lieu de cela, il propose d'acheter l'édition de la chanson et fait enregistrer Solomon Burkey dans une version produite par Burt Benz. Burkey ne savait pas vraiment, lorsqu'il a enregistré cette version, que Wilson Pickett, qui était son ami, avait enregistré sa propre version. Il s'en rendit compte cependant lorsque Double L Records, un label appartenant à Lloyd Price, acheta le master de Correct Tone et sortit la version de Pickett au niveau national, en même temps que la version de Burkey. Les deux hommes, mécontents d'avoir été mis en concurrence involontaire, ont alors lancé un pacte de non-agression officieux. Chaque fois que Burkey était amené dans une station de radio pour promouvoir son disque, il disait aux auditeurs qu'il était là pour promouvoir le nouveau single de Wilson Pickett. Pendant ce temps, lorsque Pickett se rendait dans les stations de radio, il en profitait pour promouvoir le nouveau disque qu'il avait écrit pour son bon ami Solomon Burkey et que les auditeurs devaient absolument écouter. Le résultat est que les deux disques sont devenus des succès. Celui de Pickett a frôlé les limites inférieures du top 30 R&B, tandis que Burkey, qui était la plus grande star, a atteint la deuxième place du classement R&B et est rentré dans le top 40 pop. Pickett l'a suivi avec une imitation, It's Too Late, et a réussi à entrer dans le top 10 du R&B, car il n'y avait pas de concurrence avec Burkey. À ce moment-là, Jerry Wexler s'est rendu compte qu'il avait eu deux fois l'occasion de sortir un disque avec Wilson Pickett au chant, deux fois il avait refusé, et deux fois le disque avait été un succès. Il s'est rendu compte que c'était probablement une bonne idée de signer Pickett directement chez Atlantic et d'éviter de passer à côté cette fois-ci. Il vérifie auprès de Pickett si ce dernier est ennuyé par le disque de Solomon Burkey. La réponse de Pickett est « Tu sais, j'ai besoin de gagner ma croûte ». Et Wilson Pickett est devenu à ce moment-là un artiste Atlantic. C'était à l'époque où Atlantic connaissait un certain marasme commercial. À part les disques que Burt Benz produisait pour les Drifters et Solomon Burkey, ils n'avaient aucun succès et ils étaient considérés comme quelque peu démodés, enracinés dans une version du R&B qui montrait encore des racines jazz plutôt que les nouveaux sons qui prenaient le dessus sur l'industrie au début des années 60. Mais il s'agit tout de même d'un label plus important que tous les autres pour lesquels Pickett avait enregistré jusqu'ici. Et il saisit l'occasion pour passer à la vitesse supérieure. Pour commencer, Atlantic a associé Pickett à quelqu'un qui semblait être le collaborateur idéal, Don Covey, un chanteur et auteur-compositeur soul qui avait ses racines dans un R&B dur et du gospel, mais qui avait écrit des succès pour des gens comme Chubby Checker, par exemple, Monsieur Twist. Les deux hommes se sont réunis et ont enregistré une chanson qu'ils ont écrite ensemble, « I'm Gonna Cry, Cry, Baby ». Cela n'a rien donné commercialement. Et, chose exaspérante pour Pickett, le même jour, Atlantic a sorti un single que Covey avait écrit pour lui-même, Mercy Mercy, et qui a fini par être numéro 1 au hit parade R&B et faire partie du top 40 pop. Comme I'm Gonna Cry n'a pas fonctionné, Atlantic a décidé d'essayer de changer d'approche et a associé Piquette à leur hitmaker de l'époque, Bert Benz, et à une partenaire du duo, Tammy Lynn, pour ce que Piquette décrira plus tard comme l'une des sessions les plus bizarres que j'ai jamais entendues de ma vie. Un duo sur une chanson de Mann et Vale, Come Home Baby.
I know just how bad I've heard you.
Oh, yeah.
Let me make it up some way. What can I do just to prove I love you? Should I beg on my knees, baby? Come on.
Piquette a déclaré plus tard à propos de ce morceau, il n'a pas vendu deux disques. Mais bien qu'il n'ait pas été un hit, il a été très populaire parmi les musiciens. Quelques mois plus tard, Mick Jagger en produira une version reprise sur Immediate Records avec Ronnie Woods, Keith Richards et la section cuivre de Georgie Fame soutenant un couple de chanteurs alors inconnus, Rod Stewart et P.P. Arnold.
Just how bad I've hurt you.
Oh, yeah.
Make it all up to you some way. What can I do just to prove I love you? Should I bend on my knees, baby, please?
Malheureusement pour Rod Stewart et P.P. Arnold, ce disque n'a pas dépassé le stade de la promotion et n'est jamais sorti dans les magasins. Pendant ce temps, Piquette repart en tournée, remplaçant Clyde McFatter, qui a dû abandonner suite au décès de sa sœur. L'ancien compagnon de Piquette au sein des Falcons, Mac Rice, qui se produit désormais sous le nom de Sir Mac Rice, participe également à la tournée et fait la promotion d'un single qu'il vient de sortir sur un petit label et qui a été produit par André Williams. La chanson s'appelait à l'origine « Mustang Mama », mais Aretha Franklin lui avait suggéré de l'appeler plutôt Mustang Sally.
Mustang.
Piquette prend note de la chanson, bien qu'il ne l'enregistre pas tout de suite. Et entre-temps, la chanson est reprise par le groupe de rock blanc The Young Rascals, qui sort sa propre version en face B de son numéro 1, Good Lovin'.
Mustang.
Le problème d'Atlantic pour obtenir des succès ne concernait pas seulement les disques qu'ils produisaient eux-mêmes. Ils avaient également du mal à obtenir de gros succès avec les disques Stax. Stax était distribué par Atlantic et en 1963, ils avaient eu un tout petit succès avec These Arms of Mine d'Otis Redding.
These arms of mine, yearning from wanting you.
Mais tout au long de l'année 64, alors que le label connaît un certain succès R&B avec ses stars établies, il n'a pas de véritable coup d'éclat et il semble patauger un peu. Il ne va pas aussi mal qu'Atlantic lui-même, mais il ne va pas merveilleusement bien. Et ce n'est qu'à la fin de l'année que le label a trouvé ce qui allait devenir sa marque de fabrique lorsque, pour la première fois, Redding a collaboré avec le guitariste et producteur de studio Stax, Steve Cropper, sur une chanson. Ce disque allait ouvrir la voie au grand triomphe artistique de Redding au cours des deux années suivantes, que nous examinerons probablement lors d'un prochain épisode. Mais il a aussi ouvert la voie à un futur son possible pour Atlantic. Atlantic avait signé un duo de soul, Sam and Dave, qui étaient de merveilleux interprètes sur scène, mais qui n'avaient pas encore réussi à transposer ses performances sur disque. Jerry Wexler a pensé que Steve Cropper pourrait peut-être les aider à le faire et a fait une proposition à Jim Stewart de Stax. Atlantic prêterait Sam and Dave au label. Ils resteraient ainsi signés chez Atlantic, mais enregistreraient leur disque dans les studios de Stax. Et ils sortiraient en tant que disque Stax. Leur premier single pour Stax, A Place Nobody Can Find, a été produit par Cropper et a été écrit par le compositeur de Stax, Dave Porter. Ce n'est pas un succès, mais bientôt, Porter commence à collaborer avec un autre auteur-compositeur, Isaac Hayes, et écrit une série de succès pour le duo. Mais afin d'officialiser le prêt de Sam and Dave, Atlantic voulait également formaliser son accord avec Stax. Auparavant, ils avaient fonctionné sur la base d'une poignée de main. Wexler et Stewart avaient un respect mutuel, et ils s'étaient simplement mis d'accord pour que Stax donne à Atlantic l'option de distribuer leurs produits. Mais maintenant, ils ont conclu un contrat formel à long terme. Et pour la somme nominale de 1 $, Jim Stewart a donné à Atlantic les droits de distribution de tous les prochains disques passés de Stax et de tous les disques futurs qu'il sortirait au cours des prochaines années. Ou du moins, Stewart pensait que l'accord qu'il passait formalisait l'accord de distribution. Ce que le contrat disait en réalité, et Stewart n'a jamais pris la peine de le faire vérifier par un avocat spécialisé dans le divertissement, parce qu'il faisait confiance à Wexler, c'est que Stax allait, pour la somme de 1 $, donner à Atlantic la propriété permanente de tous leurs disques en échange. La formulation précise était la suivante. Par la présente, vous nous vendez, cédez et transférez à nous et à nos successeurs ou ayant droit, de manière absolue et pour toujours, sans aucune limitation ou restriction quelle qu'elle soit, qui ne soit pas spécifiquement énoncée dans la présente, l'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs à chacun de ses masters et à chacune des performances qui y sont incorporées. Jerry Wexler insistera plus tard sur le fait qu'il n'avait aucune idée de l'existence de cette clause particulière dans le contrat et qu'elle avait été glissée là par les avocats. Jim Stewart se considérait toujours comme le propriétaire d'un label indépendant, mais sans s'en rendre compte, il était devenu un employé d'Atlantic. Atlantic a commencé à profiter de ce nouvel arrangement en envoyant d'autres artistes à Memphis pour enregistrer avec les musiciens de Stax. Contrairement à Sam and Dave, ces enregistrements sont toujours publiés sous le label Atlantic et non Stax. Et Jerry Wexler et l'ingénieur du son d'Atlantic, Tom Dowd, sont impliqués dans la production, mais les disques sont réalisés par l'équipe de Stax. Le premier artiste à bénéficier de ce nouvel arrangement est Wilson Pickett, qui souhaitait depuis longtemps travailler chez Stax, étant un grand fan d'Otis Redding en particulier. Pickett a fait équipe avec Steve Cropper et ensemble, ils ont écrit la chanson qui allait définir la carrière de Pickett. Les graines de « In the Midnight Hour » proviennent de deux enregistrements antérieurs. L'une est une ligne de son disque avec les Falcons, « I Found a Love ». L'autre est une ligne d'un disque que Clyde McFatter avait fait avec Billy Ward and the Dominoes en 1951, Do Something for Me. Ces lignes sur Midnight Hour and Love's Come Tumbling Down sont devenues la chanson qui a fait le nom de Pickett, mais qui a fait quoi exactement? Cette question a été la cause de futurs désaccords. L'histoire officielle est que Steve Cropper a pris ces lignes et a travaillé avec Pickett pour écrire la chanson comme une collaboration directe. La plupart du temps, Pickett affirmait, lui, qu'il avait écrit la chanson tout seul et que Cropper lui avait volé le crédit de cette chanson et de leurs autres collaborations. Mais d'autres fois, il admettait. Il a travaillé avec moi sur ce morceau. Floyd Newman, un corniste régulier de Stax, a soutenu Cropper en disant « Chaque artiste qui venait ici, ils avaient leurs chansons toutes ensemble. Quand ils partaient, ils devaient en céder une partie à une certaine personne. Mais cette personne, on ne pouvait pas lui en vouloir parce qu'elle ne possédait pas Stax. C'est Jim Stewart qui possédait Stax. Et ce type faisait ce que Jim Stewart lui disait de faire. Alors, on ne pouvait pas vraiment lui en vouloir. » Mais d'un autre côté, Willie Scofield, qui a collaboré avec Pickett sur « I Found a Love », a dit de l'écriture que Pickett n'avait pas de schéma d'accord. Il avait quelques paroles. « Je travaille avec lui, je lui donne les changements d'accord, le feeling, puis nous entrons en studio et je dois montrer en groupe comment les jouer. » Car nous n'avions pas d'arrangeur. Ça fait partie de l'écriture des chansons. Mais il ne le comprenait pas. Il pensait avoir écrit les paroles et c'est tout. Étant donné que Cropper ne s'est pas attribué le crédit d'écriture sur plusieurs autres disques auxquels il a participé et qu'il a toujours eu l'habitude de faire des disques classiques à succès et que In the Midnight Hour est stylistiquement très différent du travail antérieur de Pickett, mais très similaire à des chansons comme Mr. Pitiful, coécrites par Cropper, et la longue habitude de Pickett de ne pas tenir compte de la contribution des autres à son succès, je pense clairement que la version la plus probable des événements est que Cropper a eu une grande influence sur l'élaboration de la chanson et qu'il mérite probablement son crédit, mais nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé exactement dans leur collaboration. Peu importe qui l'a écrit, In the Midnight Hour est devenu l'un des classiques de la soul. Autre facteur qui a contribué au succès du disque et à la réinvention du son de Stax est en fait Jerry Wexler. Wexler avait commencé à assister à des sessions dans les studios Stax et était étonné de voir à quel point le processus d'enregistrement était différent dans le sud. Et Wexler a apporté sa propre contribution à la session qui a produit In the Midnight Hour. Sa principale suggestion était que, plutôt que de jouer la partie compliquée que Cropper avait imaginée, le guitariste devait simplifier et se contenter de jouer des accords au rythme de la caisse claire de Al Jackson. Wexler s'enthousiasme pour une nouvelle mode de danse appelée le jerk, qui a récemment fait l'objet d'un disque à succès par un groupe appelé The Larks. Jerk, tel que Wexler l'a démontré aux musiciens complètement déconcerté, consiste à accentuer le deuxième et le quatrième temps de la mesure et à les retarder très légèrement. Et il se trouve que cela correspond très bien au son du studio Stax. Le studio Stax était une très grande pièce avec beaucoup de réverbération et les musiciens jouaient ensemble sans utiliser de casque, en écoutant le son de la pièce. À cause de cela, pour rester dans le temps, Steve Cropper avait commencé à prendre ses repères non seulement à partir du son de la pièce, mais en regardant la main gauche de Al Jackson, le batteur, quand il tapait sur la caisse claire. Cela l'a amené à jouer lorsqu'il voyait la main de Jackson descendre sur les 2 et les 4, plutôt que lorsque le son de la caisse claire parvenait à ses oreilles. Une minuscule fraction de seconde d'anticipation du rythme. Avant que tout le monde ne se synchronise à nouveau sur le 1 de la mesure suivante, lorsque Jackson frappait sa grosse caisse. Cela a évolué jusqu'à ce que le groupe entier joue une espèce de backbeat avec un retard fractionnel, en le marquant avec un tout petit peu de retard. Comme si vous écoutiez l'écho de ces battements comme un slapback plutôt que le battement lui-même. Si quelqu'un d'autre que des musiciens tout à fait exceptionnels avait essayé de le faire, cela se serait probablement terminé comme un crash de voiture. Mais Jackson était l'un des meilleurs métronomes du métier et beaucoup de musiciens diraient qu'à ce moment-là, Steve Cropper était le meilleur guitariste rythmique du monde. Donc, au lieu de cela, cela a donné des performances justes dans un relâchement et un laid-back incroyable, mais avec une particularité captivante. Ce léger retard de backbeat était quelque chose que les musiciens avaient naturellement l'habitude de faire, mais il correspondait tellement bien à la conception de Wexler du jerk qu'ils ont commencé à l'exagérer délibérément, toujours en retardant le backbeat de façon infime, mais suffisamment pour donner au disque un son très différent de tout ce qui existait déjà. Ce retard de backbeat deviendra la signature sonore de Stax pour les années à venir. Et on l'entend systématiquement dans la série de singles classiques qui sortiront dans les années suivantes par Otis Redding, Sam & Dave, Carla Thomas, Booker T and the MGs, Eddie Floyd et bien d'autres. Le son de ce rythme est mis en valeur par la simplicité absolue du jeu de Al Jackson. Jackson disposait d'une batterie minimaliste et en jouait de manière encore plus minimale. À l'exception d'un fil occasionnel, il ne frappait jamais cet homme pour rien, se contentant d'utiliser la grosse caisse, la caisse claire et le Charleston. Et le Charleston n'avait même pas de micro. Tout Charleston présent sur les disques était simplement le résultat des fuites dans les micros des autres. Mais cette simplicité donnait au disque de Stax une puissance que presque aucun autre disque de l'époque n'avait. In the Midnight Hour est devenu le numéro 1 des hit parades R&B et le numéro 21 des hit parades pop, transformant instantanément Pickett d'un outsider en l'une des principales stars de la musique soul. La suite, un enregistrement similaire appelé Don't Fight It, a également atteint les 5 premières places du hit parade R&B. Lors de la session suivante, Pickett a retrouvé son ancien camarade de groupe Eddie Floyd. Floyd n'allait pas tarder à avoir son propre succès chez Stax, notamment avec Knock on Wood, mais à ce moment-là, il travaillait comme auteur-compositeur pour Stax, proposant des chansons comme Comfort Me pour Carla Thomas. Floyd avait fait équipe avec Steve Cropper et il avait été, disons, inspiré par un tube des Marvelettes, Beachwood 45789, écrit par Marvin Gaye, Gwen Gordy et Mickey Stevenson. Cropper et Floyd avaient composé leur propre chanson, 6345789, que Pickett a enregistrée et qui est devenue un succès encore plus grand que In the Midnight Hour, atteignant la 13e place du hit parade pop et devenant le deuxième numéro 1 R&B de Pickett. Lors de la même session, ils ont enregistré un autre single, celui-ci inspiré d'une vieille chanson gospel, 99 and One Half Won't Do, enregistrée entre autres par Sister Rosetta Tharpe. La chanson a été réécrite par Floyd, Cropper et Pickett et a également été un succès R&B modéré, mais pas aussi important que 6345789. Ce sera le dernier single que Pickett enregistrera chez Stax. Bien que la raison n'en soit pas très très claire, Pickett était pour le moins un homme avec lequel il était difficile de travailler et il semble avoir eu une sorte de brouille avec Jim Stewart. Bien que Stewart ait toujours dit que le problème était en fait que Pickett ne s'entendait pas avec les musiciens. Mais les musiciens ne sont pas d'accord, affirmant qu'ils n'avaient une bonne relation de travail. Pickett était souvent une personne exécrable, mais seulement lorsqu'il était ivre. Et il était toujours sobre quand il était en studio. Il semble probable, en fait, que l'éloignement de Pickett des studios Stax était davantage lié à quelqu'un d'autre. L'ami de Pickett, Don Covey, était un autre artiste atlantique enregistré chez Stax. Et Pickett avait voyagé avec lui lorsque Covey y avait enregistré CISO. Toutes les personnes impliquées sont d'accord pour dire que Covey était une personnalité excentrique et qu'il caressait Jim Stewart à rebrousse-poil. Certains ont également le sentiment que Stewart a commencé à s'offusquer de la façon dont le son de Stax était utilisé pour les artistes d'Atlantique, comme s'il donnait des hits, même si la société de Stax a obtenu l'édition des chansons que Cropper co-écrivait et qu'il était payé pour son temps en studio. Quoi qu'il en soit, après cette séance, Atlantic n'a plus envoyé aucun des artistes chez Stax, à l'exception de Sam & Dave, que Stax considérait comme ses propres artistes. Pickett n'enregistrera plus jamais chez Stax, et peut-être par coïncidence, une fois qu'il aura cessé d'écrire des chansons avec Steve Cropper, il ne connaîtra plus jamais de grand succès avec une chanson écrite uniquement de sa main. Mais Jerry Wexler voulait continuer à travailler dans des studios du Sud, et avec des musiciens du Sud. Il a donc emmené Pickett au studio Fame, à Muscle Shoals, en Alabama. Les studios Fame ont connu le succès avec les disques d'Arthur Alexander. Mais après qu'Arthur Alexander soit passé chez Monument Records, Rick Hall, le fondateur des studios Fame, a fait de Fame un foyer pour les chanteurs R&B alors en quête de succès. Alors que Stax employait des musiciens noirs et blancs, le studio Fame avait une section rythmique entièrement blanche, avec une formation en musique country. Mais cela s'est avéré être absolument parfait pour des artistes comme le chanteur soul Joe Tex, qui avait lui-même commencé par la country avant de passer à la soul et qui a enregistré des classiques comme Hold What You Got au studio.
You had the better hold on. Hold on to what you
Il est sorti sur le label de Fame et Jerry Wexler a été impressionné et a dit à Rick Hall de l'appeler la prochaine fois qu'il pensait avoir un tube. Lorsque Hall a appelé Wexler, ce dernier est contrarié. Hall lui téléphone au milieu d'une fête, mais Hall a insisté. « Vous m'avez dit de vous appeler la prochaine fois que j'aurai un tube, mais là j'ai un numéro 1. » Wexler a cédé et a écouté l'enregistrement au téléphone et voilà ce qu'il a entendu. Atlantic s'est emparé immédiatement de When a Man Loves a Woman de Percy Sledge, qui a atteint la première place du hit parade pop. Le premier disque de studio soul du Sud à y parvenir. Aux yeux de Wexler, Fame est désormais le nouveau Stax. Wexler a subi un choc culturel lorsqu'il a travaillé chez Fame, car il n'y avait rien de comparable à ce qu'il avait connu auparavant. Les disques auxquels il avait participé à New York avaient été principalement enregistrés par des musiciens de jazz, de bas étage, des joueurs très techniques qui lisaient la musique à partir de partitions, et Stax avait Steve Cropper comme directeur musical de facto, dirigeant les musiciens et travaillant leurs parties avec eux. Ce procédé, comme dans la plupart des autres studios de ce que Charles Hughes décrit comme le triangle Country Soul, Memphis, Muscle Shoals, Nashville, était celui qui avait été mis au point par Owen Bradley, et la Nashville A-Team, les musiciens écoutaient une interprétation de la chanson par son auteur ou une démo. Ils notaient les séquences d'accords en utilisant le système de numérotation de Nashville, plutôt qu'une partition totalement détaillée. Ils faisaient une seule répétition pour trouver la bonne balance, pour que chacun trouve sa place, et puis ils enregistraient. Et très peu de chansons nécessitaient une seconde prise. Pour la première session de Pickett chez Fame, et la plupart des sessions suivantes, la section rythmique de Fame était composée du claviériste Spooner Oldham, du guitariste Jimmy Johnson, du bassiste Junior Lowe et du batteur Roger Hawkins. L'équipe a été complétée par quelques autres musiciens, le guitariste de Memphis Chip Smallman et le guitariste Tommy Cockbill, et la section de cuivre qui avait joué sur les disques Stax de Pickett, Moonlighting. Et pour le premier morceau qu'ils ont enregistré là-bas, Wexler voulait qu'il fasse quelque chose qui allait devenir une signature pour Pickett au cours des deux années suivantes. Enregistrer une version soul d'une reprise rock d'un disque soul. Vous avez compris ? Wexler pensait que la meilleure façon pour Pickett de toucher un public blanc était de faire une chanson qui leur était familière grâce à des reprises pop blanches, mais des chansons qui provenaient du style soul de Pickett. À l'époque, le son backbeat, Red, des tubes de Pickett, était plus associé à la musique rock blanche qu'à la soul, tout comme l'accent mis sur la guitare rythmique. Pour des oreilles modernes, les disques de Pickett sont presque la définition de la musique soul, mais à l'époque, ils étaient absolument considérés comme des disques crossover. C'est ainsi que, dans les mois qui suivent, Pickett enregistre des reprises de Mercy Mercy, de Don Covey, de Everybody Needs Somebody, de Solomon Burke et de Time Is On My Side, d'Irma Thomas, qui avaient toutes été précédemment reprises par les Rolling Stones et dont deux avaient été publiées par la filiale d'édition Atlantic. Pour ce single, il enregistre une chanson qui était au départ une chanson de danse inspirée du gospel par le chanteur R&B Chris Kenner. Ce n'était qu'un petit succès vers la fin du Hot 100, mais il a été repris par beaucoup d'autres musiciens et est devenu l'une de ces chansons que tout le monde utilise comme remplissage d'album. Rufus Thomas en avait fait une version par Stax, par exemple, mais un groupe de garage Chicano appelé Cannibal and the Headhunters a commencé à l'interpréter en concert. Et son chanteur a oublié les paroles et il s'est mis à chanter « na 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 » donnant à la version un refrain qu'elle n'avait pas dans sa version originale. Leur version, un faux enregistrement studio en live, est entré dans le top 30.
You know I feel alright, children.
La version de Pickett était radicalement réarrangée et comprenait un riff de guitare que Chips Moman avait inventé, des nouvelles paroles que Pickett avait introduites et une intro de basse que Jerry Wexler avait inventée, une série de double croches que Junior Lowe trouvait d'ailleurs très difficile à jouer. Les musiciens ont passé tellement de temps à travailler sur cette intro que Pickett s'est agacé et a décidé de prendre les choses en main. Et il a crié « Allez, 1, 2, 3 !» Et la section cuivre, avec le genre d'intuition qu'on acquiert en travaillant ensemble pendant 2 années, ont sonné. Et il a crié à nouveau « 1, 2, 3 !» Et ils ont joué un autre accord. Et Lowe est passé à la partie basse. Ils avaient trouvé leur intro. Ils ont répété l'ouverture une fois de plus, et puis ils ont tout enregistré en une prise.
« 1, 2, 3 !»
À cette époque, Fame enregistrait encore en direct sur une bande monopiste et toutes les erreurs étaient donc enregistrées sur la bande sans possibilité de les corriger, comme lorsque tous les cuivres, sauf un, oubliaient d'entrer sur la première ligne de couplet. Mais ce genre d'erreur n'a fait qu'ajouter à l'ambiance du morceau qui est devenu le plus gros succès de Pickett, son 3e numéro 1 au classement R&B et son 1er top 10 pop. Comme la formule consistant à enregistrer une reprise soul d'une reprise rock d'une chanson soul avait manifestement fonctionné, le single suivant enregistré par Pickett fut Mustang Sally, qui, comme nous l'avons vu, avait été à l'origine un disque R&B de Mac Rice, l'ami de Pickett, avant d'être repris par les Young Rascals. La version de Pickett, cependant, est devenue la version définitive.
Mustang Sally. Guess you better slow your
Mais il s'en est fallu de peu. Elle a été enregistrée en une seule prise et les musiciens sont allés dans la salle de contrôle pour l'écouter et le cabestan métallique du magnétophone s'est détaché pendant qu'il se rembobinait. La bande a été coupée en une dizaine de petits fragments que la machine a projetés dans toute la pièce, dans toutes les directions. Tout le monde était horrifié et Pickett, qui était déjà connu pour son tempérament horrible, semblait sur le point de tuer quelqu'un. Tom Dowd, l'ingénieur de génie d'Atlantique, qui avait été physicien sur le projet Manhattan, alors qu'il était encore adolescent, n'allait pas laisser une chose aussi mineure l'arrêter. Il a demandé à tout le monde de faire une pause et d'aller déjeuner, a rassemblé tous les morceaux de bande jetés au hasard et les a recollés ensemble. L'enregistrement terminé comporte apparemment 40 raccords, soit une moyenne de 1 raccord toutes les 4 secondes. Écoutez ce segment de 30 secondes et voyez si vous pouvez y entendre un seul raccord.
Ah,
Stunk Sally a été un autre succès pop dans le top 30. Et la stratégie de Wexler semble avoir porté ses fruits, à tel point que Pickett joue maintenant dans des salles presque entièrement blanches. Il joue, par exemple, lors de la toute première revue de Murray the K au Brooklyn Paramount, où les autres artistes à l'affiche sont Mitch Ryder and the Detroit Wheels, les Young Rascals, Al Cooper's Blues Project, Cream et les Who. Pickett trouve les Who extrêmement peu professionnels avec leur utilisation de bombes fumigènes et la casse des instruments à la fin du concert. Mais il finit quand même par devenir ami avec eux, probablement parce qu'ils ont des goûts pour l'alcool commun. Le single suivant de Pickett est sa version de Everybody Needs Somebody to Love, la chanson de Solomon Burke que les Stones avaient également reprise. Et c'est un petit succès. Mais les quelques disques suivants ne marchent pas. Pas particulièrement bien en tout cas. Il a cependant connu un grand succès avec sa reprise d'une chanson d'un groupe appelé Dyke and the Blazers. La version de Pickett de Funky Broadway l'a fait entrer dans le top 10 de la musique pop. Il a aussi fait autre chose. Vous avez peut-être remarqué que deux des groupes à l'affiche du Paramount étaient des groupes qu'on appelle « Blue-Eyed Soul ». La « soul » était à l'origine un terme utilisé pour la musique faite par les Noirs. Mais de plus en plus, le terme était utilisé par les Blancs pour leur propre musique, tout comme le rock'n'roll et le rhythm and blues avant lui avaient été repris par des musiciens Blancs. Et donc, comme dans ces cas-là, les musiciens Noirs se sont éloignés du terme, bien qu'il n'ait jamais été complètement abandonné, pour se tourner vers un nouveau terme argotique, le funk, Pickett a été le premier à faire entrer une chanson avec « funk » dans le titre, dans les charts pop. Mais ce sera le dernier enregistrement que Pickett fera chez FM pendant quelques années. Comme pour Stax, Pickett est écarté par Atlantic à cause de problèmes avec un autre artiste. Et cette fois-ci, à cause d'une session avec Aretha Franklin, qui a mal tourné. À partir de ce moment-là, Pickett enregistre au American Sound Studio de Memphis, un studio détenu et dirigé par Chips Moman, le guitariste, qui avait joué sur de nombreux disques de Pickett. Là encore, Pickett joue avec un orchestre entièrement blanc, mais il fait appel à quelques musiciens noirs, le saxophoniste King Curtis et le nouveau guitariste de Pickett, Bobby Womack, qui a connu quelques années difficiles, étant largement mis au banc de la communauté musicale en raison de sa relation avec la veuve de Sam Cooke. Womack a écrit ce qui pourrait être la meilleure chanson de Pickett, une chanson intitulée « I'm in love », qui est un chef-d'œuvre de simplicité métrique déguisée en complexité. On pourrait écrire que tout est en 4-4, mais la pulsation change et implique des mesures alternées de 5 et de 3 à certains moments. Le jeu de Womack lors de ces sessions a deux effets. L'un sur l'histoire de la musique et l'autre sur Pickett. L'effet sur l'histoire de la musique est qu'il a développé une forte relation de travail avec Reggie Young, le guitariste du groupe de studio American Sound. Et Young et Womack ont repris de leurs styles respectifs. Young deviendra plus tard l'un des meilleurs guitaristes de session country, jouant sur les disques de Merle Haggard, Willie Nelson, Dolly Parton, Kenny Rogers, Waylon Jennings et bien d'autres. Et il utilisait le style de Womack. Il dira plus tard « Je n'ai rien changé, j'ai tout pompé ». Je jouais ce style de Womack sur les disques country au lieu des trucs des technos, et ça a changé tout le socle de la musique country. L'autre effet, cependant, a été beaucoup plus dommageable. Womack a initié Pickett à la cocaïne. Et Pickett, qui était déjà un homme agressif, violent, abusif, est devenu à partir de ce moment totalement ingérable. « I'm in love » s'est hissé à la 4e place du hit-parade R&B. Mais n'a pas atteint le top 40 du hit-parade pop. La suite, un remake de Stagger Lee, se classe bien dans les charts pop, mais moins bien dans les charts R&B. Les publics des Piquettes divergent, et il a de plus en plus de mal à faire cohabiter les deux. Et il y parviendra tout de même, de façon sporadique, tout au long des années 60. Une fois, il y est parvenu en 1968, lorsqu'il est retourné à Muscle Shoals et au studio Fame. Lors d'une session, le guitariste insiste pour que Piquette enregistre une version du dernier tube des Beatles. Il s'agit évidemment d'un disque qui se situe plus loin dans notre chronologie et qui sera sûrement abordé dans un prochain épisode, mais j'imagine que la plupart d'entre vous ne trouveront pas que c'est un spoiler si je vous dis que Hey Jude des Beatles a été un grand succès.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Ce que ce guitariste avait réalisé, c'est que le titre de la chanson était l'occasion parfaite pour une improvisation. Ce serait parfait pour un solo de guitare et pour que Piquette fasse un très bon Cree Soul par-dessus. Ni Piquette ni Rick Hall n'étaient enthousiastes. Le disque des Beatles venait à peine de quitter la première place et l'idée leur semblait un peu ridicule. Mais le guitariste continuait à insister, et au moment où les autres musiciens reviennent de leur pause déjeuner, il a convaincu Piquette et Hall. Le disque commence de manière assez simple.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
Piquette a décrit plus tard l'enregistrement de cette partie. Il se tenait juste en face de moi, comme s'il jouait chaque note que je chantais. Il me regardait dans les yeux pendant que je chantais, et quand je criais, il hurlait avec sa guitare. Ce n'est pas le plus grand succès de Piquette, mais c'est l'un des plus influents. Ah oui, au fait, le guitariste, c'est Duane Allman. Et ce morceau a démarré sa carrière comme producteur, que Jerry Wexler a insisté pour signer son propre contrat après cela. Et comme l'a dit Jimmy Johnson, le guitariste rythmique de la session, nous avons alors réalisé que Duane avait créé le rock sudiste pendant ces sessions. Le succès est tel que Wexler pousse Piquette à enregistrer toute une série de reprises de chansons rock. Il sort des versions de Hey Joe, Born to be Wild, You Keep Me Hanging On, cette dernière revenant à sa bonne vieille technique de la reprise blanche d'un disque noir, puisque sa version copie l'arrangement de Vanilla Fudge plutôt que l'original des Supremes. Mais ces chansons n'ont eu que des succès très mineurs, le plus grand succès étant sa version du Sugar Sugar des Archies. Alors que les années 60 se transforment en années 70, Piquette continue à avoir du succès, mais celui-ci est plus irrégulier et moins constant. Les mondes de la musique noire et de la musique blanche s'éloignent l'un de l'autre, et Piquette, qui plus que quiconque avait été à cheval sur les deux mondes, se retrouve maintenant n'avoir du succès dans aucun des deux. De plus, sa dépendance à la cocaïne l'a rendu totalement égocentrique. À un moment donné, au début des années 70, Piquette obtient une résidence à Las Vegas, et il en tire ce qui, pour la plupart des gens, aurait été un excellent revenu. Mais il se plaignait amèrement de ne jouer que dans la petite salle et non dans la grande, dans le même hôtel, bien que l'artiste jouant dans la grande salle était mieux annoncé que lui sur les affiches. Bien sûr, l'artiste qui joue dans la grande salle, c'est Elvis Presley. Mais cela n'a aucune importance pour Piquette. Il pense qu'il mérite d'être au moins aussi grand. Il se disputait aussi régulièrement avec sa maison de disques. Hamet Ertegun avait l'habitude de raconter une histoire et je vais la répéter ici. Ertegun raconte. Jerry Wexler n'a jamais aimé Crosby, Stills & Nash, parce qu'il voulait toujours plus d'autonomie artistique. Pendant qu'on discutait de ça, lui et moi, Wilson Piquette est entré dans la pièce. Il s'est approché de Jerry et lui a dit « Jerry ». Jerry s'est retourné et il a crié « Bam !» et il a abattu un pistolet sur la table. Et il a dit en hurlant, « Si ce fils de pute de Tom Dowd entre là où j'enregistre, je vais le tuer. Et si vous entrez, je vais vous tirer dessus. » « Oh !» a dit Jerry. « C'est bon, Wilson. » Et il est sorti. Alors j'ai dit, « Bah, tu veux qu'on discute de l'autonomie artistique ?» Comme vous pouvez l'imaginer, Atlantic était plutôt content de se débarrasser de Pickett lorsqu'il a décidé de passer chez RCA Records, qui essayait enfin de percer sur le marché du R&B. Malheureusement pour Pickett, le cadre qui a pris la décision de le faire signer quitte bientôt la société, et comme cela arrive souvent lorsqu'un cadre part, son projet favori devient celui dont tout le monde veut désespérément se débarrasser. RCA ne sait pas comment commercialiser des disques auprès du public noir et n'essaie pas vraiment. Et la voix de Pickett commence à s'abîmer franchement à cause de sa consommation de cocaïne. Il a passé les années 70 et 80 à passer d'un label à l'autre et à essayer des choses comme le disco, par exemple, sans succès. Il est également passé de femme en femme, les battant toutes. Et s'en est pris aux membres des groupes de plus en plus rapidement. Le guitariste Mark Ribot a fait partie d'un groupe de Pickett pendant une très courte période et il a déclaré « Vous pouvez toujours évoquer des circonstances atténuantes et il faut peut-être tout replacer dans un contexte historique, mais vous savez pourquoi les hommes battent les femmes ? Parce qu'ils le peuvent. Et c'est un abus. C'est également la raison pour laquelle les employeurs battent leurs employés, quand ils le peuvent. J'ai travaillé avec des chefs d'orchestre noirs et des chefs d'orchestre blancs qui étaient des êtres humains respectueux, courtois, talentueux, généreux. Et puis j'ai travaillé avec Wilson Pickett. Ce dernier devenait de plus en plus paranoïaque. Il ne s'est pas présenté à son intronisation au Rock'n'Roll Hall of Fame, où il devait se produire. Au lieu de cela, il s'est caché chez lui, effrayé à l'idée de sortir. Pickett a été arrêté à plusieurs reprises pendant cette période et dans les années 90, passant un certain temps en prison, puis entrant en désintoxication en 1997, après avoir été arrêté pour avoir battu sa dernière compagne. Elle a abandonné les charges, mais la police a trouvé de la cocaïne en sa possession et l'a inculpé pour cela. Après sa sortie, il s'est apparemment adouci et est devenu beaucoup plus facile à vivre. Toujours aussi désagréable, surtout après avoir bu un verre, ce qu'il n'a jamais vraiment abandonné. Mais beaucoup moins violent et plus facile à vivre qu'auparavant. Il a également fait un retour en force grâce à une apparition dans le film Blues Brothers 2000, qui a fait un flop et qui, faut le reconnaître, n'était pas terrible. Il enregistre un album de blues, It's Harder Now, et participe également à Ad Lib, l'album d'un duo de retour de son vieil ami Don Covey, chantant avec lui et co-écrivant plusieurs chansons, dont Nine Times a Man.
You may think you're number one. I got news for you. Ever since I hit this town,
It's Harder Now est un album solide, basé sur le blues, dans la veine d'albums similaires de l'époque par des gens comme Solomon Burke, et aurait pu conduire Pickett à avoir le même genre de résurgence de fin de carrière que Johnny Cash. Il a été nominé pour un Grammy, mais a perdu dans la catégorie pour laquelle il était nominé, au profit de Barry White. Pickett est déprimé par cette déception et décide d'arrêter de faire de la nouvelle musique. Il se contente de jouer sur les circuits de vieux disques jusqu'en 2004, date à laquelle il devient trop malade pour continuer à tourner. Le duo avec Covey sera la dernière fois qu'il entrera en studio. L'histoire de la dernière année de Pickett est douloureuse, avec des querelles entre son partenaire et ses enfants au sujet de sa procuration, tandis qu'il passait de longues périodes à l'hôpital, souffrant de problèmes rénaux causés par son alcoolisme, et aussi à ce moment-là par de la boulimie, du diabète, etc., etc. Il était suffisamment malade pour tenter de se racheter auprès de ses enfants et de son ex-femme et a réussi aussi bien que quiconque dans cette situation. Le 18 janvier 2006, deux mois avant son 65e anniversaire, sa compagne l'a emmené se faire couper les cheveux et tailler la moustache pour qu'il ait l'apparence qu'il voulait. Ils ont mangé ensemble dans son lieu de vie assisté. Ils ont prié ensemble. Et elle est partie vers 11h ce soir-là. Peu de temps après, Pickett a eu une crise cardiaque et est mort. Seul. In the midnight hour. Note de bas de page, la ressource principale que j'ai utilisée pour les détails biographiques de Wilson Pickett est « In the Midnight Hour, The Life and Soul of Wilson Pickett ». Les informations sur Stax proviennent globalement de deux livres, « Soulsville USA, The Story of Stax » par Rob Bowman et « Respect Yourself, Stax Record and the Soul Explosion » de Robert Gordon, qui est une bible. « Country Soul » de Charles L. Hughes est un excellent aperçu de la musique soul produite à Muscle Shoals, Memphis et Nashville dans les années 60. Les épisodes de Cocaine and Rhinestone auxquels je fais référence sont consacrés à Owen Bradley and the Nashville A-Team. On trouve un coffret CD tout à fait abordable de Complete Atlantic Albums Collection. Et je remercie une fois de plus le podcast L'Histoire du Rock'n'Roll en 500 chansons de James Hickey. Cet épisode est écrit, produit, mixé et réalisé avec des moufles par moi, le Capitaine Diligaf. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et engagez d'autres personnes à l'écouter. Mettez 5 étoiles et un avis positif, c'est très important pour la survie du podcast. Si cet épisode vous a déplu, encouragez d'autres personnes à l'écouter, on ne sait jamais.